Donc moi, je vais faire un petit retour en arrière avant de parler de 48, de 1848. Pour moi, pour comprendre le 19e siècle, il faut, chacun à ses périodes, je dirais que l'histoire étant un continuum indéfini, donc l'histoire est sans fin, contrairement aux propos un peu abracadabra qui ont été tenus, l'histoire est sans fin et c'est difficile de déterminer des points de départ, des points d'arrivée. En général, les points qu'on étudie ne sont ni des fins, sont à la fois des fins et des commencements. Donc je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est un fait qui a traumatisé le jeune garçon qui était dauphin, qui était le futur Louis XIV, et c'est la Fronde. Dans la Fronde, il y a eu un grand sursaut de l'ensemble de l'aristocratie française contre le roi. Les ducs, les princes, les différents nobles se sont mis en tête de réduire le pouvoir royal. Ça, c'était une grande affaire. La royauté a été sauvée par Mazarin. Et par contre, Louis XIV en a gardé un souvenir traumatisant d'enfant. Et il a résolu le problème en faisant deux systèmes, en distribuant à peu près toute la gestion de l'appareil d'État de l'époque, qui était embryonnaire mais quand même assez conséquent, à la bourgeoisie sous la forme de ventes de charges. Il a donné du pouvoir au clergé pour gérer les paroisses. Donc, à la base, les communes étaient quelque chose, les lieux paroissiaux étaient quelque chose de fort. Et il a convoqué tous les nobles à la cour. Donc, c'est en gros Louis XIV qui a inventé la centralité française, qui a inventé le super appareil d'État dont le XIXe siècle a hérité et qui a inventé cet appareil d'État pris en charge par une partie de la bourgeoisie. Parce qu'effectivement, quand on achète une charge de notaire, de préleveur de l'impôt, de gestionnaire des bois, de gestionnaire, de, par exemple, Saint-Gobain, qui était une grande verrerie, une manufacture royale qui était dirigée par quelqu'un qui avait payé pour faire ça. Donc, effectivement, quand on a ces charges, on est de la bourgeoisie, on n'est pas de l'aristocratie, puisque dans la tradition française, contrairement à la tradition anglaise, l'aristocrate ne se mêle pas d'affaires aussi triviales que de faire de l'argent. Donc voilà, la différence entre la Fronde et puis la Révolution de 1650 en Angleterre avec Cromwell, c'est celle-là. Hein. Cromwell, c'est les bourgeois qui ont marginalisé l'aristocratie et passé un compromis avec l'aristocratie. En France, c'est le roi qui a favorisé directement l'aristocratie, la bourgeoisie en la prenant en partie à son service. Donc, si vous voulez, par là même, il a créé, à côté de la bourgeoisie qui s'est développée tout au long du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, il a créé deux phases de la bourgeoisie. Il y avait la bourgeoisie marchande et patronne de petites entreprises qui ont commencé à se dégager des mouvements des corporations. Et puis de l'autre côté, il y avait cette bourgeoisie de charge hein, qui était l'appareil d'État de l'époque. D'ailleurs, l'État était réellement géré, vous vous rappelez, vous avez tous entendu parler de Colbert, avant lui, sous Henri IV, il y avait Olivier de Serres, il y avait enfin toutes sortes de très très grands personnages qui ont été des éléments extrêmement importants là-dedans. Voilà. Au XVIIIe, le même phénomène a continué, c'est-à-dire que et la bourgeoisie d'affaires s'est développée et la bourgeoisie d'administration s'est développée. Et je dirais que tout ce monde rassemblé dans les villes, ce qui n'était pas dans la cour du roi, ce qui n'était pas le cas en Angleterre, a continué au XVIIIe siècle. Ça a favorisé énormément sur Paris un boom intellectuel tout à fait extraordinaire. Et voilà la disposition, je dirais, de ce qui s'est passé, de ce que je tiens à expliquer pour que vous compreniez tous les enjeux qu'il y a eu au XIXe siècle. L'ensemble de ces enjeux dans les différentes révolutions que nous avons eues jusqu'à la fin par l'instauration de la République, je vous le raconterai sous l'optique de « mais qui donc gère cet appareil d'État et pour qui ?» Donc c'est en gros, pour moi, à travers les événements que je vais vous raconter, c'est ça, c'est qui se chamaille pour la conquête de cet appareil d'État, sa maîtrise, dans quel but, etc. Parce que moi, je ne crois pas du tout que ce sont seulement des personnalités qui s'occupent de l'histoire. Les gens qui ont des personnalités, bien sûr, c'est des personnes, d'ailleurs, je vous en citerai un très grand nombre, elles s'occupent de prendre des places, d'occuper des lieux de pouvoir en partant de quelque part et pour arriver à quelque part. Donc voilà en gros la lecture que je vais faire. Donc si vous voulez, à la veille de la Révolution française, on avait le tiers état qui était composé de la paysannerie, d'une toute petite couche de gens des métiers qui étaient très marginaux et qui étaient dans les corporations sans y être tout à fait, et le petit peuple des corporations, et au-dessus, on avait une bourgeoisie d'affaires, et une bourgeoisie d'affaires entrepreneuriales, et une bourgeoisie d'appareil administratif. L'aristocratie, avec le clergé ayant tout le pouvoir. Donc, si vous voulez, ça, c'était la disposition des classes juste avant la Révolution française. La Révolution française, eh bien, son résultat, à travers tout ce qu'elle a fait comme action, ça a été de transférer le pouvoir, sous la forme de grandes luttes, à travers les grandes luttes qu'il y a eu, de transférer le pouvoir de l'aristocratie à la bourgeoisie dans son ensemble, c'est-à-dire que, y compris avec la partie la plus pointue de la Révolution, c'est-à-dire les événements de Thermidor et Robespierre à leur tête, ça n'était que de la bourgeoisie qui était là-dedans. Une bourgeoisie, je dirais, plus proche des intérêts du tiers-État, comme Robespierre, ou une grande bourgeoisie comme Sieyès et d'autres. Donc, si vous voulez, on a eu un transfert, l'aristocratie a été battue et la bourgeoisie s'est installée au pouvoir. Napoléon est une anecdote parce que la noblesse des gens de Napoléon, ce ne sont jamais que des bourgeois et la famille qui sont arrivés au pouvoir. Enfin bon, c'est un système pas aristocratique. Une partie des nobles, d'ailleurs, qui étaient restés, se sont emmanchés là-dedans. Et on a eu donc là, autour de Napoléon, toute une mise en place de cet appareil administratif très fort qui a été en quelque sorte consolidé, qui a consolidé ce qui avait été fait au siècle précédent. Voilà. Donc, au lendemain de la Révolution française et de l'Empire, en 1815, on a cette grande bourgeoisie qui a en gros nourri l'appareil d'État, qui avait tellement financé l'aristocratie au XVIIIe siècle que l'aristocratie était bien incapable de rembourser ses dettes. Donc, une grande partie de la bourgeoisie a repris les domaines, l'ensemble des, des avoirs de, la, de l'aristocratie. Pendant les 15 ans jusqu'en 1830, on peut se dire que l'aristocratie et la grande bourgeoisie ont géré ensemble la nation et elles ont d'ailleurs commencé à fusionner. C'est dans cette période de la Restauration, Louis XVIII et Charles X, que sociologiquement ces deux classes ont commencé de fusionner. En même temps, dans cette période-là, a commencé à se développer la révolution industrielle, mais dans un cadre très particulier parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre et qui aura une énorme conséquence sur l'ensemble du XIXe siècle du point de vue politique. C'est que la Révolution française, elle a réussi à partir de théories, je dirais, de justice, d'égalité, etc. Le tiers-État, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il demande? Devenir quelque chose, disait Sieyès. Hein. Eh bien, à travers les événements et des grandes valeurs théoriques, pas avec un plan prémédité, la Révolution a réussi la réforme agraire. Quand le 10 août 1792, la Révolution est entrée dans la phase républicaine qui a abouti à la mise en place de la Première République en 1793 et à la mort de Louis XVI en janvier 1793. Les biens des immigrés qui étaient partis, qui étaient vacants, les biens de l'Église, tout ça, et ça revenait à la nation. Il y avait aussi l'ensemble des terres communales. Vous savez que dans les villages, dans les communes, il y avait toutes sortes de possibilités pour le collectif des paysans d'avoir accès à des terres, terres qui étaient de vaine pâture et de choses comme ça, et qui étaient disponibles pour la communauté villageoise. C'était aussi des terres libres. La Révolution avait affaire à des menaces d'envahissement par l'ensemble des forces coalisées et évidemment, elle a vendu ses biens. Elle a vendu ses biens. Ça dépendait d'ailleurs de la qualité des biens. Les biens des nobles immigrés ont été vendus en partie. Aux petits paysans qui avaient encore de l'argent, enfin qui avaient un peu d'argent, et puis tout le reste, ça a été vendu à qui pouvait. Donc ces terres ont été rachetées. Il n'y a pas eu de possibilité de faire de grands latifundas comme en Espagne ou comme en Angleterre. Les terres ont été morcelées, plus ou moins, mais morcelées. Il y a donc eu un grand nombre de propriétaires, soit des fermiers et des villageois suffisamment riches pour acheter des terres, soit des gens des villes qui ont acheté les terres et les ont mises en fermage. Et parallèlement, une protestation, regret chez un certain nombre de petits paysans qui auraient bien vu une gestion tout à fait différente des terres libres et qui les auraient bien vues en gestion comme c'était auparavant, c'est-à-dire en gestion commune, mais eux n'ont pas eu gain de cause et donc ils ont été transformés en ouvriers agricoles. Donc vous voyez, dans la paysannerie, on a réussi cela, c'est qu'il y a eu un grand nombre de paysans qui ont réussi à acquérir des terres. Dans la phase de développement économique qu'a connue la France sous l'Empire, ça a fortement consolidé l'agriculture. Et la France étant ce qu'elle est, très grande par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou l'Italie, elle a eu une puissance agricole très très forte et cela a permis aussi un développement de la révolution industrielle un peu particulière. C'est qu'il ne faut pas voir la révolution industrielle en France comme les grosses mines de charbon, comme on a eu en Angleterre. On a commencé à en avoir, mais ça n'a pas été le centre. Il y a au contraire eu beaucoup, beaucoup d'activités de tissage, autour du tissage, autour de transformation des produits de la terre. Et ça a couvert la France de petites industries au fin fond des campagnes. D'ailleurs, quand vous visitez les campagnes, vous voyez, même datant du 19e, du 19e siècle, tout au long du 19e siècle, il y avait plein de moulins, plein de tissages et de choses comme ça, de transformation des produits de la terre partout en France. Donc là aussi, on a eu un phénomène assez étonnant, c'est que il y a une bonne part de la paysannerie qui avait un double métier, les pipes du Jura, l'horlogerie, etc. Et donc, vous voyez bien que là-dedans, on avait une situation un peu particulière dans ce développement de la révolution industrielle. Voilà. Ça, c'est pour recadrer ce que tout ce qu'on ne sait pas forcément dans la situation de la France au lendemain, à la veille de 1830. 1830, on a commencé à voir les effets de la révolution industrielle qui commençait à arriver tout doucement. Sous Louis-Philippe, qui est arrivé au pouvoir parce que, la petite bourgeoisie s'était déjà largement enrichie et elle a fait, tomber l'aristocratie, puisque Philippe était un roi dit républicain, c'est-à-dire c'était le Philippe égalité. Il était vraiment porteur de toute une idéologie petite bourgeoise. Voilà. Il faut dire que, quand même, les premiers indices d'apparition de grandes entreprises, d'entreprises déjà conséquentes, concentrées dans les villes, sont apparues avec, en 1831, la première révolte des Canuts lyonnais. Première révolte qui s'est passée, avec Guizot assez tranquillement. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. Ils ont tenu la ville pendant quelques jours, mais l'armée ne les a pas massacrés. Il y a eu peut-être une centaine de morts. Enfin, c'était vraiment très, très peu. Ensuite, il y a eu une dépression dans ces années-là. Dépression qui a aggravé la misère, il y a eu des épidémies de choléra en 32. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu en 32, en 49 et même en 92. Donc en 32, il y a eu épidémie de choléra. De nouveau en 34, Lyon, qui était vraiment une ville très dynamique du point de vue de la revendication. Lyon a fait de nouveau, avec ses canuts, une commune. Mais le problème, c'est que là, la garde nationale ne s'est pas ralliée aux canuts. Et un personnage nouveau qui arrive, c'est Thiers, a envoyé la troupe qui a massacré, il a fait des milliers de morts et une dizaine de milliers de déportés, bon, quelque chose quasiment équivalent à 48 rien que sur la ville de Lyon. Donc c'est extrêmement important, et en quelque sorte c'était la préfiguration de ce qu'il allait faire en 1871, lui-même rebelote contre la Commune de Paris. Donc Thiers, c'est un grand massacreur. Il avait fait ses exploits en 34 à Lyon et 40 ans plus tard, enfin 36 ans plus tard, il remet le couvert à la commune. Voilà. Donc à la veille de 48, on est quand même, encore pas tout à fait, faisons le portrait du développement de l'industrie, parce que c'est à partir de Louis-Philippe que ça s'est vraiment fortement développé. Pour vous dire, les premiers trains ont commencé à circuler. Les grandes gares ont eu les âges là, je crois que je vois là les gares. Le premier train, la première gare, c'est Austerlitz en 1840. avec la station qui allait jusqu'à Juvisy, des gares de circulation, hein, on en a eu. En 1946, c'est la gare du Nord, 1840, c'est Montparnasse aussi. 1837, c'était Saint-Lazare, mais c'était surtout pour desservir Saint-Germain-en-Laye. Enfin, c'était la banlieue déjà. Ensuite, voilà, tout au long de cette période, les grandes gares se sont mises en place. Alors, vous voyez, le fait que je signale qu'on construise des gares à Paris, ça veut dire qu'on a commencé par faire des chemins de fer en province. Donc, parce que pour faire les chemins de fer, on ne part pas de la gare de Paris pour aller en province. On commence de la province et on remonte vers Paris. Donc, tout au long de cette remontée des gares, vous avez un bon auteur français qui raconte ça, c'est Vincenot. Vous avez les industriels qui montent des chantiers à la campagne, en pleine campagne, qui ramassent les ouvriers agricoles qui étaient si peu payés, on les prend, et en montant les rails, ils remontent vers Paris. Dans les moments où ils ont besoin de beaucoup de monde, ils font venir des Piémontais, ils font venir des Savoyards, ils font venir plein de gens. Dans le Nord, c'était plutôt les Polonais qui ont commencé à venir. Donc, si vous voulez, vous voyez bien cette masse de gens qui remontent en construisant les trains, parce que pour construire les trains, on est mieux payé, et voilà, quoi. Mais ces énormes chantiers qui arrivaient, qui faisaient entre 1000 et 3000 personnes, suivant les types de chantiers, ça créait des problèmes, ça créait des bouleversements sociaux partout où ça débarquait. Vous voyez bien ce que ça pouvait faire, ces grands rassemblements d'hommes dans les campagnes, assez peu habitués à ce genre de phénomène. Donc, ça a été quand même un grand remue-ménage. Et c'est aussi comme ça que Paris a atteint 1 million d'habitants dans cette période-là. Pour vous dire, par exemple, un chiffre, entre 1835 et 1845, la ville de Belleville, la commune de Belleville qui était hors des murs de Paris, elle est passée de 8000 à 35000 habitants. Vous voyez un peu cette concentration très, très importante de travailleurs. C'est-à-dire que quand ils étaient arrivés avec le train à la gare, ils ne repartaient pas, ils s'arrêtaient. Et ils allaient dans les petites entreprises, ils montaient leurs petites entreprises, etc. Dans le même temps, évidemment, il a bien fallu construire des maisons pour tout ça, et c'est la province de Creuse qui a fourni les maçons, les célèbres maçons de la Creuse, qui sont venus construire Paris. Et là aussi, ils sont venus, mais ils restaient à Paris, ils retournaient relativement peu au pays. Si vous réfléchissez bien, ces phénomènes sont à peu près symétriques à ceux que nous vivons depuis 1960, depuis les années 50-60. Voilà. Donc voilà, dans le Nord, il y avait les mines, il y avait un peu d'industrie, etc. Ne pas oublier non plus que les hauts fourneaux de l'époque, ça n'était pas les monstres qu'on connaît maintenant. Ils étaient plus proches des petits hauts fourneaux de Mao Tse-tung dans les années 50 que des machins du Creusot à la fin du 19e siècle. On a commencé petit. Plus gros que les petits hauts fourneaux de Mao Tse-tung, mais quand même pas très grand. Même des fonderies pouvaient n'avoir que 20-25 personnes, et pas parce que c'était extraordinairement mécanisé, mais parce que c'était petit. C'était plutôt des grosses forges que des grandes usines. Donc tout ça, il y en avait plein Paris, plein la banlieue déjà parisienne, qui n'était pas encore à l'intérieur de Paris, mais qui était bien présente. Donc, si vous voulez, vous voyez un peu le paysage de Paris à cette époque-là. Donc, beaucoup de gens de province qui arrivent, qui s'installent dans des conditions extrêmement difficiles de travail. Un début de réflexion sur ce que c'est que la société, à travers toutes sortes de feuilles de choux qui se répandent dans la population. Il n'y a pas de parti organisé à cette époque-là comme on les connaît maintenant. Le premier parti organisé comme parti à la manière de ceux qu'on connaît maintenant a été fondé par Jules Guesde en 1880. C'est le Parti ouvrier français. C'est vous dire qu'on est très très loin d'une idée que les forces sociales ou les idéologies qui travaillent la société se regroupent dans des partis. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des mouvements d'idées qui se disséminent et qui se regroupent autour de journaux. Alors, journaux tous plus ou moins contrôlés, plus ou moins censurés, suivant les périodes. Il y a des périodes où on censure moins, il y a des périodes où on censure plus. Voilà. Mais à la veille de 1830, donc, on a beaucoup de remue-ménage dans les idées. Louis-Philippe s'épuise un peu, Guizot est complètement épuisé lui aussi. Tout ça, ça marche plus très bien, mais comme beaucoup, quand les régimes sont un peu épuisés, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes épuisés. Voilà. Donc, à la veille de 1848, il y a eu 1847, où les républicains, c'est-à-dire tous ceux qui, d'origine bourgeoise ou petite bourgeoise, c'est-à-dire les entrepreneurs, etc., commencent à trouver que c'est vraiment trop lourd, la royauté, la présence de tous ces empêchements pour travailler, faire travailler leurs ouvriers. Ça ne marche plus, et ça mécontente tout le monde. Vous pouvez trouver plein de choses de cet acabit. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés de développement et qui n'y arrivent pas. Vous avez qui arrivent, mais qui souhaitent d'autres conditions pour y arriver. Il y a un bel exemple, c'est le médecin de campagne de Balzac qui raconte bien comment quelqu'un de l'élite installé à la campagne essaie de développer la campagne, de développer des choses intéressantes sur tous les plans. Donc voilà un peu l'idée des couches moyennes de l'époque, hein, petite bourgeoisie plutôt que couche moyenne, ça risquerait d'être trop ambigu. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est seulement 15 à 20% de la population qui est salariée. Le reste, c'est des rentiers, des petits artisans, etc. Donc, le salariat n'est pas très développé à l'époque. Voilà. Donc, vous avez des penseurs comme Tocqueville qui nourrissent cette réflexion sur la liberté d'entreprendre, sur la République, etc. De l'autre côté, je vais vous faire un panorama beaucoup plus complet de ce qui va nous intéresser dans 1848. C'est que la Révolution, à la fin de la Révolution, c'est-à-dire en gros après la chute de Robespierre et de ses amis, quand ça s'est stabilisé du point de vue de la classe gérant le pouvoir, il y a plein de gens qui auraient voulu aller plus loin, qui n'ont pas pu y aller. Donc, nous avons chez tous ceux qui ont promu des idées socialistes quelques grandes figures et quelques grandes figures qui vont se retrouver dans leurs successeurs. Donc, je vous les énumère rapidement. Il y a Gracchus Babeuf, qui est un révolutionnaire paysan pas du tout sensible à la production, mais qui est plutôt quelqu'un qui pense un peu comme au XVIIIe, mais pour qui c'est la terre qui est le principal, qui est réputé être le premier communiste, puisqu'il a lancé la révolution, la conspiration des égaux, et qui voulait donc que ce soit autour de la terre, collectivisé, partagé entre tout le monde, qu'on organise la vie autour de ça. Gracchus Babeuf, qui s'est fait décapiter en 1797 et qui pensait dans le style de la conjuration et donc qui a fortement inspiré un grand révolutionnaire du 19e siècle, Auguste Blanqui, qui a tellement fait de tentatives de coups d'État de toutes sortes et de révolutions de toutes sortes qu'il a passé 36 ans en prison. Mais il a vécu très vieux, c'est ce qui lui a permis de passer tout ce temps en prison. Il est né en 1805 et est mort en 1881. Babeuf, c'était de 1760 à 1797. Un deuxième utopiste, comme ils ont été appelés plus tard pour les marginaliser un peu, pour discréditer un peu leur pensée, Charles Fourier, grand penseur de l'alternative économique. Lui pensait un monde sans argent, regroupé autour d'une structure à la fois terrienne et industrielle, dans un phalanstère, où on s'occupait collectivement de tout, de se faire du bien, d'enseigner, etc. Enfin, Fourier était très très préoccupé de se faire du bien. Enfin, il pensait vraiment qu'il fallait que le monde futur se fasse plaisir. Donc il y avait, c'était pas des lupanards, mais se fasse plaisir, c'est-à-dire que tout le monde passe beaucoup de temps en contact humain, qu'on passait pas le temps à s'obséder, à travailler, enfin bon, voilà. Fourier, c'est un grand penseur utopiste, donc 1772-1737, et il a eu toutes sortes d'amis d'élèves, en quelque sorte, qui ont tenté de mettre ces idées en forme, c'est-à-dire le phalanstère, qui était une idée théorique de Fourier, a été mis en œuvre par des gens comme Étienne Cabé, qui a créé l'Utopia aux États-Unis, par Robert Owen en Angleterre, par Godin, les fameux poils Godin, Godin qui a fondé le Familistère, l'a transformé en coopérative qui s'est arrêtée en 1970, un truc comme ça. Et un homme extrêmement intéressant qui était Victor Considérant, de 1808 à 1893, qui, lui, était un homme qui a, sur la fin de sa vie, influencé Jaurès, qui, pendant la Révolution de 1848, s'est battu pour le vote à la proportionnelle, en plus du suffrage universel, il voulait le vote à la proportionnelle, et il voulait le vote des femmes. Donc, c'est vous dire que c'était un de ceux qui étaient parmi les plus ouverts. Ensuite, il y a eu un très grand personnage, un peu complexe et ambigu, qui était Saint-Simon, qui a vécu de 1760 à 1725, qui était l'arrière-petit-fils du Saint-Simon de Louis XIV, l'arrière-petit-cousin, enfin bon, qui était parent avec le Saint-Simon précédent. Et ce Saint-Simon-là, pendant la Révolution, comme petit bourgeois, il a réussi à bien profiter de la vente des biens. Donc il s'est fait une petite pelote, il est devenu rentier. Avec tout ça, il s'est installé en face l'école polytechnique, et il a inventé ses idées, il a diffusé ses idées principalement aux gens de la polytechnique en face, et il a eu beaucoup d'influence sur plein de gens, parce qu'il avait une vision très, très, très diverse. C'était un homme qui croyait énormément en la science, donc au progrès scientifique, au progrès technique, mais il avait aussi beaucoup d'idées sur le partage, et la coopération, le travail ensemble, etc. Donc il a influencé des gens que vous connaîtrez bien. Auguste Comte a été un de ses grands élèves, en quelque sorte. Prosper Enfantin, l'homme qui avait inventé le canal de Suez, mais qui s'est fait avoir par les Lesseps. Enfin, l'idée de lui... Et l'idée, le début de la réalisation est de lui. Et enfin, un homme qui nous intéresse énormément, Pierre Leroux, qui, lui, a vécu de 1797 à 1871 et qui est celui qui a conçu tout le côté socialisme associatif, socialisme coopératif, mutualiste, etc., qui est un grand inspirateur d'un autre personnage que vous connaissez sûrement, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Voilà. Donc, tous ces gens-là, pour les trois grands que je vous ai situés, Saint-Simon, Charles Fourier et Gracchus Babeuf, ils étaient morts en 1948, mais tous leurs enfants, enfin tous leurs élèves, étaient bien présents dans cette période-là. Ces grands-là, sans qu'ils aient été connus spécialement, ils ont aussi influencé les trois grands noms du socialisme de cette époque-là et encore pour aujourd'hui. Ces trois personnages se sont rencontrés en 1846 à Paris. C'était Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, Karl Marx, 1818-1883, et Michel Bakounine, 1814-1876. Voilà. Donc tous ces gens-là étaient en 1946 à Paris. Pour certains, Bakounine, Proudhon, ils étaient dans Paris au moment de la Révolution de 1848. Et ceux-là ont été diversement influencés par Saint-Simon, Charles Fourier et Gracchus Babeuf. Il y avait aussi Blanqui, qui lui s'était déjà acquis une célèbre réputation à force de se faire arrêter à toutes les tentatives de coups qu'il a menées. Voilà le paysage dont je voulais vous faire part. En même temps, il faut bien comprendre que la France n'était pas à ce moment-là unique en 1948. Au moment des événements de 1948, c'est toute l'Europe, on a appelé ça le printemps des peuples, c'est toute l'Europe qui s'est couvert de grandes agitations à la fois républicaines, c'est-à-dire principalement petites bourgeoises, et ouvrières. Et l'Allemagne a été particulièrement secouée. L'Italie a vécu avec les premières tentatives d'unification, qui ont d'ailleurs été écrasées par le président de la République de la Deuxième République, à savoir Louis-Napoléon Bonaparte, qui a écrasé les garibaldistes à Rome. L'Autriche-Hongrie, qui a failli de peu éclater. Voilà. Et dans cette période-là a commencé à naître un phénomène tout à fait extraordinaire, le nationalisme. Le nationalisme, c'est quelque chose, en gros, qu'on peut dire, du moins je vous citerai des auteurs tout à l'heure qui le pensent, le nationalisme, c'est quelque chose qui, en gros, a commencé à remplacer la religion. Dans la mesure où la religion, sous la monarchie absolue, était le ciment du peuple, le roi n'avait absolument pas besoin de se poser des questions de frontières, de passeports, de machin comme ça. Les gens allaient, venaient, on n'était pas citoyen français puisqu'on n'était que sujet de Sa Majesté. Après, dans les différentes restaurations, les trois premières restaurations, ça ne se posait pas. De toute façon, les gens qui venaient de l'étranger, le seul problème qu'ils posaient, c'est les échauffourées entre pauvres, dans la mesure où il y avait des bagarres entre pauvres pour accéder au salaire. C'est-à-dire que les Creusois se plaignaient de la concurrence des Savoyards, qui n'étaient pas français à l'époque, ils ne l'ont été qu'en 1860. Donc la concurrence des Savoyards dans le bâtiment à Paris, vous voyez. Donc voilà, mais c'était uniquement pour la bagarre sur le salaire. Il n'y avait pas de question de nationalité. Et pourquoi cela? Parce que tout ce petit monde-là ne votait pas, donc ça n'avait aucune importance par rapport au pouvoir central. Il est clair qu'avec l'apparition du suffrage universel qu'a inauguré la Deuxième République, eh bien, ça a commencé à se poser des questions de nationalité. Et d'autre part, il y a aussi le fait que le capitalisme, même s'il commençait à avoir dès le début du XIXe siècle des velléités de conquête au travers de la planète, c'était pour la France des conquêtes assez modestes, puisque, à part l'Algérie qui a commencé en 1830, le Canada et la Louisiane, c'était le passé, quelque chose qui ne correspondait pas à la colonisation au sens du XIXe siècle. La France, jusqu'en 50, a surtout conquis des petites îles un peu partout, Mayotte, les Seychelles, Maurice, etc. Donc elle n'a pas fait de grandes conquêtes. L'Afrique, ça a été un peu plus tard. Voilà. Donc, si vous voulez, le capitalisme qui n'était pas encore mondialisé, eh bien, il se bataillait sur des bases nationales et essayait de se développer de cette manière. Donc il est né parallèlement à ce phénomène du printemps des peuples en 1948, un grand démarrage des nationalismes. On verra après les discussions qu'on peut avoir autour du nationalisme. Voilà comment ça se passe. L'année 1947 a vu les républicains qui commençaient à être très très vénères de l'activité de Louis-Philippe, enfin de l'inactivité de Louis-Philippe, et qui étaient interdits de tout, en particulier de parler, de faire des réunions, de mener des campagnes, ont inventé une campagne extrêmement originale, très à la française. Ils ont fait des banquets, c'était d'énormes banquets, où ils venaient 2000 personnes. En 90 banquets, ils ont réussi à rassembler 20 000 personnes. Voilà. Donc c'est vous dire que c'était très, 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 très important. Les gens payaient pour aller au banquet comme si c'était un vrai banquet. Mais pour vous dire quand même que ça, c'était, je dirais, républicain, mais sûrement pas ouvrier et paysan, c'est qu'il fallait payer 6 francs pour aller dans un banquet et que la journée de travail était à, au mieux pour ceux qui en avaient, 1 franc par jour. Donc 6 francs, c'était une semaine de travail. C'est vous dire que ça limitait quand même la participation à ces banquets. Sauf que tout ça, ça créait une agitation politique. Les gazettes s'imprimaient énormément. Je ne vous les citerai pas toutes parce qu'il y en a énormément. Et il y a en particulier sur Paris le National, qui était lui pour Louis-Philippe, et la Réforme, qui était, comme son nom l'indique, pour la Réforme. Et donc, Guizot, qui était pas très fufute, il était gentil, c'est celui qui avait évité d'écraser la première commune lyonnaise en 1931. Donc lui, c'était pas vraiment un violent, hein, ce Thiers qui était avec lui dans l'environnement de Louis-Philippe. Thiers était beaucoup plus méchant. Donc là, c'était Guizot qui était Premier ministre, et évidemment, Guizot... tergiversant, il a fini, il a laissé passer les banquets, puis à la fin, il en a eu marre, et il a fait interdire un banquet qui avait lieu le 30 décembre à Paris, animé par, évidemment, les républicains. Donc, si vous voulez, les républicains sont, je dirais, plus ou moins modérés. Ils reculent et ils reportent leur banquet au 19 février. Le roi et son ministre, croyant que c'était calmé, ils font interdire, le 14 février, ils font interdire le banquet prévu pour le 19. Évidemment, le banquet refuse de ne pas se tenir et il est reporté au 22. Là, il y avait des tensions entre les différentes tendances populaires à Paris. Les républicains, plutôt petits bourgeois, étaient dans la recherche d'un compromis. Mais par contre, le bouillant petit peuple qui avait déjà fait les trois glorieuses, les journées de juillet, donc qui avait amené... Louis-Philippe au pouvoir, les ouvriers, les artisans, le petit peuple, eh bien, ils commençaient à s'agiter très, très sérieusement et à pousser les républicains en avant. Finalement, le banquet qui devait se tenir le 19 est reporté au 22. Le 22, il est toujours interdit, mais 3000 ouvriers et étudiants se réunissent sur la place de la Concorde au cri de « Vive la réforme », l'occupation militaire de Paris est décrétée, les troupes font 5 morts, et là, on charge les gens sur une charrette et on fait le tour de Paris, et le lendemain, Paris est couvert de barricades. Mais comme Guizot n'a plus le pouvoir, parce qu'entre-temps, Louis-Philippe lui a retiré le pouvoir sous la pression des uns et des autres, eh bien, ça crée un vide gouvernemental. Et les barricades s'installent, et évidemment, voilà, les faits sont là. Le 23, l'insurrection se développe. Le 24, les manifestants attaquent le palais des Tuileries. Le gouvernement, le roi abdique, donne le pouvoir à son fils qui a 9 ans. La régence est assurée par la duchesse d'Orléans, la mère de ce jeune garçon, qui se présente à la Chambre. Et la Chambre, là, elle est envahie par les républicains, les ouvriers, les manifestants. Elle est démise. Alors, qu'est-ce que c'était que cette Chambre? C'était une Chambre élue par le suffrage censitaire. 275 000 électeurs. C'est vous dire que, en fait, il fallait avoir plus de 200 francs de revenus annuels pour pouvoir être électeur. Donc, ça faisait très peu de monde, vous voyez. Voilà. Donc, là, un gouvernement provisoire est nommé. Les ouvriers, les partis les plus révolutionnaires réclament la République tout de suite. Lamartine convainc tout le monde, le poète, hein, c'est un poète français, le poète convainc tout le monde d'attendre que ce soit la population française qui élise une constituante pour faire la Constitution. Donc, voilà. Donc, là, on est dans une situation où c'est un gouvernement provisoire et on s'arrête là. La République n'est pas nommée. Donc, le 25 février, quand même, il se décide à nommer la République, à faire la République, mais il décide de se mettre dans la dépendance de l'élection qui aura lieu un mois plus tard. Pendant ce temps-là, il y a quand même une très très grande pagaille à Paris, aggravée par le fait que depuis 1946, on était dans une crise économique importante. Et donc, la grande affaire de ce moment-là, c'est comment on va résorber le chômage. Donc, dans le gouvernement qui se met en place, avec Lamartine pour les républicains et Le Drurelin pour les gens plutôt révolutionnaires, autour de Lamartine, il y avait 6 ou 7 personnages d'origine petite bourgeoise et autour de la même origine que Lamartine. Et Le Drurelin était seul avec un ouvrier, l'ouvrier Albert, le premier ouvrier à avoir accédé à une responsabilité. Ils voulaient tous les deux avoir un ministère du Travail, mais il n'y a pas eu de ministère du Travail. On leur a fait une commission pour étudier les questions du travail à Paris. Voilà. Donc on les a collés dans le Sénat où il y avait la Chambre des Pairs, c'est-à-dire l'aristocratie qui ne se réunissait plus puisque là aussi elle avait quitter les lieux, et ils se sont réunis dans les ors du Sénat, enfin l'actuel Sénat, et ils ont commencé à faire un travail très sérieux, si bien que le gouvernement provisoire a commencé à trouver ça très très malséant, parce que cette commission convoquait des dizaines et des dizaines de personnes, il y avait tous les ouvriers en avaient entendu parler, donc ils se mettaient, ils s'installaient devant la commission de l'emploi, enfin du travail, là, de Drurelin et Albert. Et tout le monde racontait ce qu'on voulait. Ça entretenait une revendication extrêmement forte dans l'ensemble de cette population. Parallèlement, pour essayer d'amoindrir et sans que ça ait rien à voir avec la commission, le gouvernement monte des ateliers nationaux. Sauf que là, ce qui caractérise l'ensemble de cette période, c'est que le gouvernement a pris plein de mesures, je dirais belles théoriquement, mais pratiquement, il n'a pas mesuré les conséquences que ça allait avoir. Donc, ils ont créé des ateliers nationaux. Ils pensaient avoir assez peu de monde. Ils en ont eu, ils devaient compter sur 30 ou 40 000 personnes, ils en ont eu 3 fois plus. Donc ils ont été débordés, il a fallu payer tout le monde pour éviter qu'il y ait une crise politique majeure. Et ensuite, ils n'avaient pas de travail à leur faire faire. Donc ils ont fait faire aux ouvriers des ateliers nationaux, ils leur ont fait faire des broutilles. Il n'y avait pas de quoi embaucher, du moins le plan n'avait pas été prévu pour leur faire faire le travail de 130, donner du travail à 130 000 personnes. Donc voilà, ça c'est, je vous économise les détails, vous aurez l'ensemble des prises de position. Qu'est-ce qui est à noter de la révolution de 48 ? C'est donc que les mesures, elle a discuté beaucoup du travail, elle a pris des mesures limitant le temps de travail, organisant un peu le travail, elle a pris des décisions, elle a aboli l'esclavage avec Schœlcher et elle a fait le suffrage universel. En dehors de ça, puisque les élections ont eu lieu le 24 avril, ce gouvernement provisoire n'a pas fait grand-chose. L'élection à l'Assemblée nationale a vu arriver, qui était donc au suffrage universel, et bien contrairement à ce que croyaient les républicains, ça donnait une chambre complètement bleu horizon, c'est-à-dire le parti de l'ordre. Les révolutionnaires, avec Blanqui et Ledru-Rollin, avaient réclamé qu'on repousse très loin les élections constituantes, puisqu'on n'avait pas voulu proclamer la République, qu'on repousse très loin la constituante pour éviter, justement, pour prendre des mesures que les gens comprennent et qui comprennent quand même que c'était un changement. Si bien qu'à partir du 24 avril, eh bien, l'Assemblée nationale est dirigée par le Parti de l'Ordre, avec des gens comme Thiers, comme Fallou, comme le plus à gauche, c'était Cavaignac, celui qui va avoir une importance peu après. Le 15 mai, les Parisiens se disent « Oulala, on va nous faire le coup de 1830 », c'est-à-dire qu'on va nous recoller quelque chose du genre de Philippe Égalité et on va rater notre révolution. Donc, ils font, à propos de la Pologne qui a des problèmes avec la Russie et l'Allemagne, ils font beaucoup d'efforts pour porter ce problème-là à la Chambre. Ils occupent la Chambre. L'armée se saisit de Barbès, Blanqui, Raspail, tous les grands dirigeants de la gauche, des socialistes révolutionnaires de tout poil. Et voilà, ils sont donc mis en taule. Et à partir de là, eh bien, la commission du Luxembourg, qui était la commission qui s'occupait du travail, se sépare. Cavaignac devient le président de la commission exécutive. Et voilà ce qui se passe à peu près. Là, évidemment, Cavaignac, qui est le républicain le plus à droite et le plus proche du Parti de l'Ordre, et qui est un espèce de compromis entre le Parti de l'Ordre et les Républicains, bien, ce Cavaignac n'arrive pas à prendre de décision. Il est constamment contré par le Parti de l'Ordre. Enfin bon, ça marche pas bien. Ce qui est certain, c'est que on a un certain nombre de députés sont démis, d'autres démissionnent. On a des élections complémentaires et le 4 juin, aux surprises, Thiers est élu, Proudhon, Pierre Leroux, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sont élus, et surtout, Louis-Napoléon Bonaparte est élu. Voilà. Donc, on a déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été prisonnier au fort de Han jusqu'en 1946, mais qui s'était enfui du fort de Han dans la peau d'un ouvrier du bâtiment qui s'appelait Radiguet, sous les couleurs et les papiers de Radiguet. C'est pour ça qu'on l'a aussi appelé, que Victor Hugo l'appelait Radiguet. Et il s'est enfui en Angleterre. Donc d'Angleterre, il a été candidat. Le parti bonapartiste, encore assez virulent en France, a soutenu sa candidature. Il a été élu. Et évidemment, ça a créé un conflit entre les Républicains et le Parti de l'Ordre. Et Napoléon a été très astucieux. Il a dit « J'ai été élu, mais tant pis, moi je veux être élu correctement. Je ne suis pas candidat, j'arrête là, je ne suis pas dans la constituante. » Ensuite, il y a eu le décret de fermeture des ateliers. Ça, c'est pris par la droite, sauf que là, le parti de l'ordre, il roulait bien, puisque le parti de l'ordre, avec Thiers en tête, c'était rétablir la royauté. C'était ça, son but. Donc, faire un mauvais coup au nom de la République, c'était parfait. Le 21 juin, on ferme les ateliers nationaux sans aucune précaution particulière. On les ferme, donc tout le monde se retrouve à la rue. En même temps, on fait un impôt de 45 centimes qui fâche à peu près toute la France, hein, et en particulier les paysans. Et oui, c'est ça. Enfin, là-dessus, on a les journées de juin, du 23 au 26 juin, les révolutionnaires étant en tôle. C'est en gros le peuple parisien qui s'est soulevé et qui a couvert la ville de barricades, sauf que là, on n'avait plus du tout en face Lamartine, Ledru-Rollin et consorts. On avait en face Cavaignac, soutenu par Thiers, Fallou et quelques autres. Et là, eh bien, de nouveau, on a eu 6 000 morts, 4 000 civils, 2 000 militaires, 1 500 fusillés, des milliers d'arrestation. Voilà. Le 28 juin, on fait aux surprises, la constituante ayant décidé qu'il devait y avoir un président de la République élu au suffrage universel parce qu'il voulait un exécutif fort, on fait les élections pour la présidence. Pour la présidence, pour la présidentielle, quoi. Et à ces élections-là, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu donc le 10 décembre 1848. Voilà comment est morte, a vécu et est morte la révolution de 1848. Toutes les initiatives prises au début de la Révolution par Lamartine et ses amis ont été supprimées. Ça avait commencé, comme je vous l'avais dit, par les ateliers nationaux qui ont permis de liquider le peuple parisien. Lamartine et tout ça ont été écartés du pouvoir et le pouvoir s'est retrouvé aux mains des mêmes qu'en 1830, avec l'espoir pour eux de faire quelque chose qui ressemble à la retour de la royauté. Voilà. Et cerise sur le gâteau, le 9 septembre, la journée de travail est remise à 12 heures. Vous savez bien que quand elle est remise à 12 heures par le gouvernement, ce qui est appliqué, c'est encore quelque chose de différent. Voilà. Donc, si vous voulez, le premier élément sur la révolution de 48, c'est que c'est la première révolution en France où la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, tire sur le peuple. Ça ne s'était pas fait ni dans la révolution de 1789, ni dans les journées de juillet 1830. Là, il y a une rupture entre la petite bourgeoisie qui finalement rejoint la grande bourgeoisie, avec le fait que le souvenir que va laisser la Deuxième République dans les couches populaires, c'est que ça ne sert à rien la République si c'est pour se faire avoir comme ça. Et on comprend mieux pourquoi, au moment du coup d'État de Napoléon, parce que la Constitution lui interdisait de se représenter. Et quand est arrivée la fin de son mandat, à la fin de 51, il devait donc se démettre et puis aller replanter ses choux. Et évidemment, il n'a pas voulu. Et quand il a fait son coup d'État, eh bien, il n'y a eu aucun soulèvement d'aucune sorte, ni dans les villes, ni dans les campagnes, parce que ceux qui avaient espéré quelque chose de la République étaient tout à fait désespérés. Donc là, on en a pris avec Napoléon, on apprend pour à peu près 20 ans, hein, presque, puisqu'il instaure sa il instaure sa, comment, sa, son empire, lequel empire, lui, ça va être là, si vous voulez, ce qu'on on a dit tout à l'heure, c'est un empire qui explose complètement du point de vue, vous vous rappelez tous, le mot d'ordre, c'est « enrichissez-vous », c'était le mot d'ordre d'un de ses premiers ministres, dont le nom m'échappe là tout de suite. C'est les colonies qui se développent, mais alors là, extraordinairement. C'est l'industrie qui se met en place, ce sont les expositions universelles, c'est le télégraphe. Pendant ce temps, dans cette période-là, toutes les préfectures sont équipées du télégraphe, on communique beaucoup plus vite, on arme le pays. Enfin bon, il y a énormément, énormément de choses qui se passent. Dans la même période, Paris passe de 1 million d'habitants à 1 700 000 habitants. C'est-à-dire qu'il a presque doublé dans cet espace entre 48 et 70. C'est-à-dire en 22 ans, il a presque doublé. C'est vous dire l'énorme chose qu'était devenue Paris. Entre-temps, il faut se rappeler que Thiers avait fait construire autour de Paris une muraille pour défendre Paris contre les risques de toutes sortes. Murailles derrière lesquelles va s'abriter d'ailleurs la Commune de Paris. Donc à la veille de la Commune, l'Empire est à peu près l'empereur est à peu près comme Louis-Philippe, vieux, fatigué, malade. Il n'est plus au mieux de sa forme, puisque la France, si elle est une puissance économique forte, a quand même beaucoup moins développé son industrie que l'Allemagne dans la même période. La Prusse est en train de réunifier l'Allemagne. Bismarck est au pouvoir. L'armée française est mal préparée. La fin de l'Empire a été un assouplissement, mais cet assouplissement n'a pas été positif, dans la mesure où la fin de l'Empire ayant un peu assoupli ses modes de gestion, il a commencé à ne plus pouvoir prendre des décisions aussi carrément qu'il le faisait sous la dictature. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas été capable, il a mélangé pour la guerre une armée à la fois de métier et de conscription. Les généraux n'étaient pas d'accord avec ce système. Comme ce n'était pas une conscription générale, on a sous-estimé les effectifs par rapport à ceux de la Prusse, où c'était la conscription générale au nom de la nation. Et donc, quand la France a déclaré la guerre à la Prusse, pour des anecdotes que je vous passerai, eh bien, le résultat, c'est que l'armée française a été balayée. Louis-Napoléon Bonaparte a été fait prisonnier à Sedan et emmené en Allemagne. Il a refusé, c'est tout à son honneur, c'est ça au moins, il a refusé de négocier avec l'Allemagne qui demandait à ce qu'il négocie. Malheureusement, c'est pas lui qui a négocié puisqu'il n'a pas été relâché. Et là, le 4 septembre, il est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre, et le 4 septembre, eh bien, la République est proclamée par Gambetta et ses amis dans un processus de défense nationale. Là, évidemment, la situation est assez abracadabra, puisque Paris est enfermé, partiellement enfermé. La guerre continue. Elle s'est stabilisée, mais elle continue. L'ennemi est autour de Paris. Vous vous rappelez que Gambetta, qui essaye de fuir en province avec des ballons, voilà toutes ces anecdotes. Et effectivement, le gouvernement de défense nationale se met en place. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop si on va continuer la guerre ou si on va l'arrêter, parce que tout le monde n'est pas d'accord dans ce gouvernement du début de la République, qui est assez vaseuse. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, il y a toutes sortes d'événements plus ou moins heureux qui se produisent. En province, on a plein de mouvements qui remettent le couvert de 1848. On a des manifestations qui se passent sur Paris. Et là, on a une pression populaire sur le gouvernement le gouvernement de défense nationale. Bien, alors, tout ça, c'est ce qui se passe. Là aussi, le gouvernement fait des élections en février, et c'est Thiers qui forme le gouvernement. Alors, dans Paris, il faut que je vous parle de ce qu'est la garde nationale. La garde nationale, c'est quelque chose qui date du 10 août 92. Le 10 août 92, c'est ce qu'on appelle la commune insurrectionnelle de Paris. C'est le moment où les révolutionnaires les plus combatifs et les plus exigeants, craignant que Louis XVI ne l'emporte, font une insurrection et prennent le pouvoir. C'est à partir de là que se déclare la période la plus combative de la Révolution française. Et compte tenu qu'on n'a plus confiance dans l'armée, c'est le peuple qui s'arme. Et c'est ça la garde nationale, c'est le fait que, à l'époque, ce n'était pas les paysans, à Paris, il n'y avait guère que des bourgeois et des petits bourgeois, donc c'est le peuple en armes qui, en s'achetant ses armes et son costume, devient la garde nationale. Donc cette tradition est gardée, et avec 48, la garde nationale a revu le jour. Donc, le 4 février, le gouvernement Thiers est mis en place. On a des manifestations où, là, un peu comme en 1948, on ne sait pas très bien, la garde nationale, elle est un coup du côté du pouvoir, un coup avec les ouvriers, ça dépend des bataillons, ça dépend comment ils ont été faits, par qui ils sont composés, etc. Donc on a une situation assez ambiguë. Thiers se met en tête, en plus pour la défense nationale, il y avait eu un appel en octobre pour une souscription de canons. Il y a donc une centaine de canons qui sont sur les hauteurs de Belleville, de Montmartre plutôt, excusez-moi, et qui sont là et que Thiers décide de reprendre. Alors, il essaie de les reprendre, malheureusement pour lui, et enfin peut-être malheureusement pour tout le monde, en tout cas malheureusement pour lui, et son coup échoue et la garde nationale et les ouvriers révolutionnaires de toutes sortes chassent l'armée qui recule. Donc les canons sont sauvés et là le gouvernement de Thiers s'enfuit à Versailles. À partir de là, on a la mise en place de la Commune de Paris qui prend en charge la gestion de la capitale. Cette gestion aura duré jusqu'au 28 mai 1871, et dans ces 60 jours, elle prend une quantité absolument phénoménale de mesures. Il faut bien penser que c'est un gouvernement municipal qui est enfermé dans Paris. Le début janvier, Thiers a signé l'armistice avec les Allemands. Les Allemands lui ont libéré un tas de prisonniers pour que Thiers puisse reconstituer son armée, et ils n'ont pas quitté le territoire. C'est vous dire tout ce qu'il y avait autour de Paris, et c'est ça qui était autour de la commune. Protégée par les fortifications, elle était là à gérer à la fois les affaires de résistance, les affaires d'alimentation, parce que tout de même, il fallait nourrir toute la population qui était restée. Une grande partie de l'industrie ne fonctionnait plus parce que les patrons étaient partis avec les Versaillais. Toute la partie ouest de Paris s'était en grande partie vidée de ses habitants qui avaient fui à Versailles ou en province. Donc, vous voyez bien qu'on avait une situation de chaos. Et là-dedans, la commune, et en ça, elle a été tout à fait extraordinaire et elle a été élue comme un gouvernement tout à fait nouveau, elle a pris des mesures militaires, des mesures d'urgence pour nourrir la population et des mesures nourri par la réflexion des différents éléments socialistes et républicains qui étaient dans cette commune, sur le plan, je dirais, de la gestion de cet appareil d'État. Ils ont supprimé l'appareil d'État, les fonctionnaires sont devenus élus, les juges sont devenus élus, les fonctionnaires n'avaient plus droit qu'à une occupation, ils ne pouvaient pas être fonctionnaires et avoir un autre emploi. Ils ont décrété, mais alors énormément de choses, j'en ai une liste d'une soixantaine que vous retrouverez dans le document. Donc ça touchait donc vraiment l'ensemble des conditions, l'enseignement libre, gratuit, obligatoire et laïque pour les garçons et les filles, la séparation de l'Église et de l'État, les bureaux de bienfaisance de l'Empire sont transformés en coopératives de bienfaisance, on prend des mesures de liberté de presse, on supprime la vénalité des officiers publics, c'est-à-dire les notaires, les huissiers, tout cela, on n'a plus à les payer pour leur faire faire leur boulot, c'est la commune qui les paie, ils sont considérés comme fonctionnaires, donc plus cela. On nomme à la place des personnels qui sont partis, on fait élire toute une part des juges de paix. On rétablit la légitimation des enfants non reconnus, on crée une sûreté générale et en même temps on crée une commission qui limite les pouvoirs de la société, de la sûreté générale. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs absolument effarants mis en place en quelques semaines. Voilà. Donc, de cette commune de Paris, qui a été à partir de la fin 71, c'est-à-dire à partir du 22 mai jusqu'au 29 mai, c'est la semaine sanglante où la reconquête de Paris s'est faite exactement comme la reconquête de Lyon en 1834, sous la houlette de Thiers. Elle est reconquise. Les insurgés se résistent énormément. Il y a toutes sortes de choses absolument lamentables qui se passent. On fusille les communards, on fusille quelques otages. Là-dessus, en refluant, les communards incendient un certain nombre de bâtiments pour limiter l'avancée des Versaillais et, entre autres, les Tuileries qui ont brûlé. Et quelles Tuileries ? Vous connaissez le Louvre, qui est un grand U ouvert vers les Champs-Élysées. Les Tuileries barraient le Louvre. Donc, les Tuileries ont été brûlées. C'est comme ça que le Louvre est un palais ouvert sur le monde. Les Tuileries ont été brûlées. C'est un grand acte architectural. La Troisième République n'a jamais osé le reconstruire. Autant la Troisième a reconstruit avec Viollet-le-Duc l'hôtel de ville beau comme il est, eh bien, elle n'a jamais reconstruit les Tuileries en se disant qu'on n'allait quand même pas reconstruire finalement un bâtiment qui avait été le siège de Napoléon et le siège de tous les rois du XIXe. Et donc, elle a été complètement rasée, ce qui fait que le Louvre est dans cet état. Voilà. Donc, la répression a fait autour de 40 000 morts. Elle a fait des milliers de déportés. Tous les chefs révolutionnaires ont été envoyés en déportation, soit en Algérie, soit les plus virulents, le plus loin possible, comme Louise Michel qui a été envoyée en Nouvelle-Calédonie, où il y en avait un gros paquet sur le Caillou. Beaucoup sont restés d'ailleurs là où ils étaient quand ils ont été amnistiés en 1880. Donc, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que Proudhon, Bakounine et Marx s'étaient retrouvés en 1948. Ils avaient élaboré une grande partie de leurs idées dans cette période-là. Ils avaient des points de vue assez différents. Proudhon était inspiré un peu, inspiré un peu comme Leroux de Saint-Simonisme. Il retenait l'esprit associatif et coopératif et il avait une haine absolue de l'État. Donc il ne voulait pas en entendre parler, il ne se posait absolument pas la question de la conquête de l'État. Bakounine, par contre, lui, était dans un grand fondateur de l'anarchisme, lui était dans une idée plutôt blanquiste qu'il fallait conquérir l'État, mais pour le détruire et faire autre chose avec, à côté. Ce qui s'est produit dans la Commune, puisque la Commune, l'État s'est dissous. Dans la ville de Paris, il n'y avait plus d'État à ce moment-là. Et donc l'État dissous, la Commune a réinventé un autre. Et Marx, il était à cette époque-là, il avait fondé avec les deux autres, Proudhon et Bakounine, bien qu'ils soient assez en divergence, ils avaient fondé en 1865 l'Association internationale des travailleurs, dite Première internationale, qui avait élaboré toutes sortes de textes politiques. Et donc, cette Première internationale a été un des éléments animateurs de la Commune de Paris. Donc, vous voyez, on a bien dans cette... pour certains auteurs, historiens actuels, comme Ferraud, qui est un historien tout à fait sympathique, pour lui, la Commune de Paris est une des dernières grandes révoltes ouvrières, la dernière grande révolte ouvrière du XIXe siècle. Et comme elle a été écrasée dans le sang, pour lui, c'est un mythe et ça ne vaut pas plus que ça. Donc, avec lui, tout un pan de l'historiographie juge que la Commune de Paris est une clôture et n'annonce rien de particulier. Pour toute une autre partie, que ce soit les socialistes du genre Proudhon, Bakounine, Marx ou d'autres, ceux qui ont pris le pouvoir comme Ferry, Waldeck-Rousseau et Clémenceau, qui était lui-même maire de Montmartre et qui a participé avec beaucoup d'énergie à la Commune. La Commune a été un grand moment d'effervescence et de créativité politique, hein, et de prise de décision politique. Et l'on peut dire que quand les radicaux, Clémenceau et les autres, sont arrivés au pouvoir en 1880, ils ont amnistié les communards qui, pour quelques-uns, sont revenus, dont Louise Michel, sont revenus en France. Et ils ont mis en œuvre, en gros, une bonne partie du programme de la Commune, l'enseignement. L'enseignement libre, l'enseignement gratuit, obligatoire, garçon-fille et laïque, c'est Jules Ferry en 81. La séparation de l'Église et de l'État, c'est Waldeck-Rousseau en 1905. Brillant en 1905. Et en 1901, la loi pour les associations, c'est Waldeck-Rousseau. Donc, si vous voulez, une partie de ce programme a été mise en place par les radicaux. Et on peut donc aussi voir, chez les républicains, la prise en charge d'une partie des idéaux de la Commune. Évidemment, pour Karl Marx et les marxistes, la Commune de Paris a échoué parce qu'elle n'avait pas un grand parti pour organiser la prise du pouvoir par la classe ouvrière principalement, puisque c'est elle qui était en action dans la Commune de Paris avec une bonne part de la petite bourgeoisie. Pour Bakounine, eh bien... on a fait la démonstration qu'un gouvernement non autoritaire, non centraliste, dont tous les actes étaient contrôlés par les citoyens dans des réunions extrêmement nombreuses, pouvait fonctionner, pouvait prendre des décisions qui ont eu, pour la plupart, un début d'application. Donc là aussi, la Commune de Paris est pour tout le mouvement... anarchiste, un exemple et un modèle. Mais même pour Marx, d'ailleurs, il pense que si le parti a manqué, il pensait lui, bien sûr, à son Association internationale des travailleurs, qui aurait dû avoir, à ses yeux, une bien plus grande place dans l'organisation de cette commune, il pensait que c'était un modèle d'organisation pour ce qui est de la période d'organisation de cet État embryonnaire qu'avait bâti la commune. Donc, vous voyez, les trois grands groupes de socialistes ont trouvé ça très bien, et les républicains, ils ont trouvé ça pas mal, au moins pour ce qui est du contenu social de la commune. Voilà. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on en parle encore, avec l'idée qu'effectivement, ça doit donner espérance, parce que s'il y a eu beaucoup de morts et qu'elle a été écrasée, une grande partie de ces idées ont continué à nourrir les idéaux des républicains et des socialistes au sens large qui ont continué à œuvrer tout au long du XXe siècle. Voilà.
Merci Gilles pour l'intervention. Avant de passer aux questions, je voudrais savoir, est-ce que tu as des petites références bibliographiques peut-être à nous donner sur par rapport au thème?
Oui.
Quelques-unes.
Écoutez, il y a deux livres très très bien qui viennent de sortir là, en 2009. Il y a La Révolution oubliée. De 1848, La Révolution oubliée, de Gribaudy et Rio Sarcé. C'est à la découverte. 48, oui. Et sur 1871, il y en a un qui est très très bien, Paris libre, 1871, c'est par Jacques Rougerie, point histoire. Point histoire, c'est de 2004. Rougerie. Voilà. Et il y a aussi un gros livre en deux tomes de Pierre Milza qui s'appelle « L'année terrible » et qui est sorti chez Perrin en 2009. Ça parle de la commune. Vous avez de Karl Marx « Le 18 Brumaire », c'est sur 48, et « La guerre civile en France ». Alors, La guerre civile en France, vous l'avez à Mille et une nuits en 2007, et 18 Brumaire, un Garnier Flammarion. C'est des poches aussi. Vous avez, je n'ai pas d'éditeur actuellement, La commune de Paris et la notion de l'État de Bakounine. Proudhon, il n'a rien écrit sur la commune parce qu'il est mort en 1865. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et pour des questions un peu différentes, vous avez un livre sur « Lettres ouvertes aux paysans et aux autres » de Jean Viard, l'Aube, 2009, qui est un point de vue d'un ingénieur agronome aujourd'hui sur les conséquences de la réussite de la révolution agraire de 1792. Et sur les questions de nationalité, vous avez un livre absolument incontournable d'Ernest Renan qui s'appelle Qu'est-ce qu'une nation ? Ernest Renan, c'est un républicain radical qui vivait en 1800, à la fin des années, à la fin du 19e siècle. Et ce livre est publié à Marseille, Le Mot et le Reste, et il date de 2007, donc il est trouvable. Alors Renan, il dit une chose tout à fait exceptionnelle. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. Ça, on aura l'occasion d'en discuter, si vous voulez. Et toujours sur la notion de nation, vous avez de Shlomo Sand, qui est un historien israélien, qui a beaucoup de problèmes et qui a pu écrire son bouquin parce que maintenant il est à la retraite, qui est sorti chez Fayard 2008. Le livre s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». C'est un bouquin passionnant et ça vous permettra de comprendre pourquoi la nation la nation est une... Enfin, la nation, surtout quand on lui donne une généalogie, est une pure invention. C'est extraordinaire. Hein. Et vous avez un livre de sociologie qui reprend un peu tous ces thèmes, d'ailleurs, depuis sur tout le XIXe siècle, et qui est très, très passionnant, qui est de Noiriel, et qui s'appelle « Immigration, antisémitisme et racisme en France », et qui est édité chez Pluriel Hachette, 2009.